Je vous invite à nous mettre à l'écoute du texte biblique. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Alors j'ai commenté déjà ce texte, je suis parti de ce texte deux fois. La fois précédente, c'était « Ne regarde pas le miroir. » Vous voyez, le miroir, il est ébréché, il est un peu vieux. « Regarde-toi dans le miroir. » C'est ce à quoi nous invitait Kierkegaard. C'est ce que je disais la fois passée. Et son invitation, c'était que rien ne s'interpose entre le miroir et toi. Autrement dit, entre la Bible et toi, pour que tu puisses te voir dedans tel que tu es. J'ajoute aujourd'hui qu'en fait, je ne sais pas si ceux qui étaient là l'ont mesuré, mais qu'en fait Kierkegaard ne se sert pas de l'image, de cette métaphore du miroir, comme le fait Jacques. Il s'en inspire, il la médite, mais en fait il la tire dans une autre direction que Jacques. Car Jacques, en fait, l'emploie non pas pour quelqu'un qui n'arriverait pas à se voir dans le miroir, mais pour quelqu'un qui s'est vu, qui s'est bel et bien vu dans le miroir. Et la comparaison que fait Jacques, elle porte sur deux choses. D'abord, se voir dans le miroir, qui est l'équivalent d'écouter la parole de Dieu, et puis d'oublier ce qu'on a vu, qui est ici l'équivalent de ne pas mettre en pratique. Donc le problème soulevé par Jacques, l'interpellation qu'il adresse, ce n'est pas de ne pas se voir. Le problème, c'est ce qu'on fait de ce qu'on a vu. C'est qu'on ne mette pas en pratique ce que dit la parole. Et je voudrais m'arrêter avec vous sur cet enjeu de mise en pratique, qui d'un certain côté va de soi, je n'ai pas forcément l'idée que je vais vous apprendre des choses, voilà. Mais qu'est-ce qui se joue là? Je voudrais essayer de mettre des mots sur des choses qu'on sait parfois, qu'on sait dire, et parfois qu'on n'a pas les mots pour dire. Et je vais vous proposer sept remarques. Ça fait beaucoup. Sept angles de regard, en fait, 6 plus 1. La première remarque, c'est que, si on se pose la question, l'enjeu de la mise en pratique, bien Jacques lui-même s'explique à ce propos. Celui que je suis à peu près, je vois pas bien en fait, je lis. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, c'est par ici, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux, dans sa pratique même. Je reformule, autrement dit, c'est un bonheur qui est associé à la mise en pratique. Et je me suis demandé, mais à quoi est-ce que Jacques pense quand il parle de bonheur? Comment mettre des mots, si on devait mettre des mots sur ce bonheur, ça serait quoi? Alors il y a au moins deux possibilités. La première, ce serait peut-être la façon la plus spontanée dont on le fait aujourd'hui. C'est probablement, le bonheur, c'est quand je me sens bien, quoi. Je me sens heureux. J'aurai des émotions positives. Donc un bonheur subjectif, un bonheur dont je suis conscient pleinement, ici, aujourd'hui et maintenant. C'est une première façon de dire les choses, de voir les choses. Mais il y a aussi une façon plus objective, et je dis je reformule, au bout du compte. Même si maintenant tu es dans le cafard le plus absolu, même si tu ne te sens pas du tout heureux, Même si maintenant tu souffres, que tu es dans la poisse, eh bien ta situation pour autant est enviable au bout du compte. Et c'est en fait ce qui me paraît ici le plus probable, le plus présent à la pensée de Jacques. Tant, alors, pour plusieurs raisons, déjà parce que l'ensemble de la lettre de Jacques fait en fait écho aux paroles du sermon sur la montagne. Matthieu 5, Luc 6, si vous lisez ces textes en parallèle, vous vous rendrez compte de beaucoup de parenté. Et dans le sermon sur la montagne, Jésus emploie le même mot, c'est pas l'emploi du mot, mais c'est la même façon de parler. Heureux, heureux ceux qui sont persécutés. Quand vous êtes persécutés, vous n'avez pas forcément un grand sentiment de bonheur, j'imagine. Heureux ceux qui mènent deuil, heureux les pauvres, etc. Persécution, pauvreté, enfin voilà des choses qui ne nous remplissent pas d'une joie extraordinaire. Et pourtant, Jésus dit ces personnes, dit les endeuillés, dit les pauvres, les dit heureux. Et donc j'opte principalement pour cette deuxième lecture, un bonheur objectif. Et je rajoute, même si ce bonheur objectif, il n'exclut pas des retentissements intérieurs. Parce qu'en effet, je crois qu'à avoir confiance que je souffre en ce moment, mais que Dieu consolera, ben, ça peut faire du bien. Et ça peut nous aider à traverser la douleur, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, l'incertitude, la persécution, l'inquiétude, la maladie, etc. Alors je dirais bien sûr que ça ne fait pas tout, mais ce n'est pas rien. Et celui qui n'a rien à espérer a bien moins. Donc bonheur objectif qui n'exclut pas des retentissements subjectifs, j'y reviendrai encore tout à la fin. Voilà un peu pour situer le bonheur promis. Je passe à ma deuxième remarque, ce bonheur, le contexte de notre passage le fait sentir, et notre expérience ordinaire nous l'apprend. C'est le fait que obéir ou désobéir a des enjeux, a des conséquences, a des enjeux de rétribution. Je le dis autrement, il y a des bienfaits qui sont associés à l'obéissance et il y a des chocs en retour qui sont associés à la désobéissance. Et si vous avez déjà désobéi à vos parents, vous savez, théoriquement vous devriez savoir, que c'est pas toujours agréable de se voir pris en train de désobéir et de se voir, puni. Et ces enjeux, ils valent dans le texte que nous méditons, bien sûr, à l'égard de Dieu, mais ils valent aussi à l'égard des parents, à l'égard de la loi, des lois en vigueur. Autant Dieu que la loi en vigueur, la loi sociale, appelle à ne pas voler, par exemple. Eh bien, si je vole, je m'expose au déplaisir de Dieu, je m'expose à des sanctions judiciaires. J'ai envie de dire, c'est que Dieu nous prend au sérieux. Et la société aussi nous prend au sérieux. Enfin, parfois elle ne le voit pas, parfois on passe à travers les mailles, mais ni Dieu ni la société ne restent indifférents quand on fait le contraire de ce qui est demandé. Dans le texte de Jacques, c'est la mention de la loi nous le fait sentir. Alors il s'agit sans doute de la loi de l'Ancien Testament. Mais nous savons plus généralement, j'élargis, que la loi, c'est la loi. Et se mettre hors la loi, moi je suis un peu à part, vous savez. Je conduis mieux que les autres. Alors le code de la route, ça ne s'applique pas vraiment à moi en fait. J'ai envie de dire, expliquer ça aux gendarmes. Se mettre hors la loi, ça nous expose à des sanctions. Et un peu plus haut, que notre passage, on pourra relever que le même mot qui est employé là, heureux, bienheureux, il est employé dans un cadre précisément de rétribution. Au verset 12, heureux, bienheureux, l'homme qui endure l'épreuve. En effet, après avoir été éprouvé, celui-là recevra la couronne de vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment, à la fin. Donc il s'agit bien, bel et bien, de rétribution, de récompense. Et je rapproche à nouveau du sermon sur la montagne, parce que Jésus emploie des paroles quasiment identiques au verset 25, enfin, au verset 25 de Jacques. On retrouve des échos de ce que dit Jésus, à propos d'ailleurs de personnes qui font des exorcismes, qui chassent des démons. Donc on peut dire, oh, c'est super spirituel. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc là, on est bien à la fin. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Donc dire les bonnes prières, avec la bonne ferveur, et même donc chasser les démons, bien c'est pas suffisant. Dire n'est pas suffisant, s'il n'y a pas à faire. Et je suis tenté de croire qu'il y a dans cette idée de récompense quelque chose qui sonne juste. Même pour des personnes qui ne voudraient rien avoir à faire avec la foi chrétienne. Sonne juste, je veux dire par là, au sens que s'il y a quelque chose de l'ordre de la justice qui est en jeu. Ce n'est que justice. Dans un autre passage biblique, je crois que le proverbe est passé dans nos proverbes courants, on lit tout travail mérite salaire. Tout travail mérite salaire. Et la paresse aussi. Pas le même salaire. Rétribution. J'ajoute à cela, troisième remarque, je suis tenté d'ajouter, ce que fait, je crois, j'ai pas pu vérifier, pas eu le temps, pas assez de familiarité, ce que fait sentir Jean-Paul Sartre. Désolé, il y a beaucoup de philo, je fais des études de philo cette année, donc ça me brouille. Je crois que Sartre dit quelque part que, en fait, ne s'inscrit dans le réel, et ne s'inscrit profondément dans le réel que les actes que j'y aurais faits. Autrement dit, je peux avoir beaucoup de pensées, de bonnes pensées, de bonnes choses, mais ce qui se voit, ce qui marque l'entourage, l'histoire, c'est ce que j'aurais fait, le reste, personne ne l'aura vu. Je ne dis pas que c'est pas là, je ne dis pas que Dieu n'en tiendra pas compte. Mais je crois que quand j'entends ça, en tout cas, ça me fait sentir tout un enjeu du faire. Mes rêves, ou bien mes ventries intérieures, qu'est-ce que je suis bon quand même. Les discours que je me tiens à moi-même, si j'avais juste un peu plus de temps, je serais vraiment disponible pour le Seigneur, je m'engagerais, je donnerais. Si j'avais davantage de moyens, les moyens ne sont pas là ce matin, qu'est-ce que je pourrais en faire des choses? Si j'avais eu davantage de chance, si j'avais eu une enfance plus heureuse, si j'avais eu, mais je ne peux pas faire parce que j'ai pas eu ça, ou pas maintenant. Je ne dis pas que c'est faux. Je dis juste que ça n'a pas le même effet sur le réel que mes actes, que des actes que je vais poser. Et je peux toujours dire, ben, je veux perdre du poids, je veux faire du sport maintenant, ou bien je vais nettoyer la ville, moi, vous allez voir. C'est peut-être très sincère, c'est très joli peut-être. Maintenant, monte sur la balance et vois où l'aiguille. Passe le balai devant ta porte. Avant d'aller nettoyer ta ville, la ville, ça se voit. Ce que nous n'aurons pas acté, ce que nous n'aurons pas mis en acte, ça correspond très littéralement à se faire des idées. De très belles idées, peut-être, mais des idées. Des idées que nous nous faisons de nous-mêmes, de notre importance. Je vais vous renvoyer aux façons dont peut-être l'un ou l'autre d'entre vous commente les discours politiques qu'il entend à la radio. Si j'étais à sa place, mais qu'est-ce que je ferais mieux, franchement? Des idées. ma vie, au bout du compte, une grosse part de ma vie, c'est ce que j'aurais fait concrètement. Et Jacques nous rappelle un peu plus loin que la seule occasion dont nous disposons, c'est aujourd'hui. Ce que Dieu met à notre disposition, c'est aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte qu'il dit, à propos de personnes qui disaient « Ah, mais demain on fera... » Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Irréalité, réalité. Quatrième remarque, la consonance. Maintenant je tremble parce que je dois le faire devant tout le monde et voilà. La consonance ou la dissonance, vous entendez ce que ça veut dire ? La consonance ou la dissonance entre le dire et le faire a aussi des enjeux de crédibilité, des enjeux de confiance, des enjeux de vérité. Et l'expérience ordinaire nous le dit, nous l'apprend. Devant celui ou celle qui nous tient un discours honteux, qui nous affirme la main sur le cœur, tu peux compter sur moi. Et qui, quand nous l'appelons pour lui demander son aide, quand nous lui crions au secours, ne répond pas présent, eh bien, celui-là, devant lui, devant elle, davantage que de la déception, c'est de l'indignation, c'est de la colère que nous ressentons devant les promesses non tenues, devant les grandes déclarations qui ne sont pas suivies des faits, qu'elles viennent des politiques ou qu'elles viennent de nos proches. Eh bien, quand il ou elle nous parlera la fois prochaine, il n'aura peut-être même pas parlé, mais déjà il y a quelque chose en nous. Et quand il parlera, ça sonnera faux. Tu as superbement chanté « Je t'aime, Seigneur » ou « Je t'aime de l'amour du Seigneur ». Mais où est cet amour de Dieu après le moment de chant et quand tu agis comme un chrétien? N'agis pas. Vous ne devrez pas agir. Et à l'inverse, j'ai la pente négative, il y a la pente positive à l'inverse. Eh bien, quand Dieu a demandé à Abraham de se mettre en route, Abraham s'est mis en route. Quand il lui a demandé d'offrir son fils, il lui a offert, il était prêt à le faire. Et à l'inverse, et Dieu a confié encore à Abraham, et à l'inverse, nous sommes inspirés les uns par les autres. Quand celui qui nous dit « tu peux compter sur moi », eh bien on voit qu'on peut compter sur lui. Quand celui qui a chanté « jusqu'au bout, je veux te suivre », va suivre jusqu'au bout. Nous sommes inspirés. Nous sommes reconnaissants. Et nous sommes choqués quand ceux qui prétendent représenter Dieu ont des comportements qui déshonorent, comme dit la lettre de Jacques, chapitre 2, verset 7, le beau nom. Le beau nom de Dieu. Et les scandales récents en catholicisme, autour des abus sexuels, associés aux communautés de l'Arche, où des communautés de Saint-Jean le font bien apparaître là, de manière très, très publique, très voilà, socialement évidente. Mais j'ai envie de nous dire, il n'y a pas besoin d'aller en catholicisme pour ça, enfin dans cette situation contemporaine de catholicisme pour ça. Il n'y a pas besoin de faire référence à une actualité dont nous nous indignons en écoutant « Oh, c'est odieux ce qu'ils font ». Il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça, parce que c'est quand même probablement éloigné de notre quotidien, de la plupart d'entre nous. Je suis frappé de voir que Jacques la situe à portée de notre main, à portée de notre être, de notre cœur. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre par ses œuvres sa belle conduite avec douceur et sagesse? Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, d'autres traductions, un esprit de querelle, de l'irritation, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. La Semeur traduit, ce serait une entorse à la vérité. Celui ou celle chez qui nous voyons des dissonances n'est pas crédible. Il n'est pas vrai. Celui ou celle qui tient parole, eh bien nous lui faisons confiance. Nous nous ouvrons à lui, à elle. Nous nous confions à lui, à elle, de plus en plus. Nous lui confions notre confiance. Et il y a là des enjeux relationnels, des enjeux avec les autres. Enjeux de vérité, enjeux relationnels. Le faire, j'emploie le verbe là, a, cinquième remarque, au moins un autre enjeu. Les mots que j'emploie en ce moment, les mots servent à dire le réel. Ils nous servent à... Je vous parle de choses et vous voyez ce de quoi je parle, donc ils nous servent à nous comprendre. Mais les mots ne sont pas le réel. Et nous nous leurrerions à le croire. Je m'explique, le réel, la chair qui est là, C-H-A-I-R-E, ce n'est pas le mot chair. Quand je tape, ça me fait mal. Le mot chien ne mord pas. La pensée, l'intellect ne nous donnent pas et nous ne donnerons jamais une prise sur le réel. Il est vain, dit Jacques, de dire « Demain, je ferai telle ou telle chose », comme si le fait de l'avoir dit. Et demain, dit Jacques, c'est pas ta prise. Demain, ce n'est pas mes mots sur demain. Et je dirais même que c'est le cas pour aujourd'hui. Et ce que je veux dire en disant tout ça, c'est que faire nous donne une expérience du réel et un savoir du réel qui est bien plus qu'un savoir. Une expérience qui dépasse ce que les mots peuvent en dire ou peuvent tenter d'en dire. Je peux par exemple être en mesure, c'est pas mon cas, de vous expliquer de quoi est constituée une molécule d'eau. Je peux faire de grands discours sur l'eau, des conférences sur l'importance de l'eau pour les vivants. Mais ce n'est pas encore l'expérience de la soif. Ce n'est pas encore ce qui se passe quand je bois de l'eau. Je peux venant d'un pays chaud, tout savoir sur la neige à Villefontaine, pas très souvent. Je peux avoir lu des livres sur la neige. Je peux avoir vu des films où il y a de la neige. Mais la voir tomber, si j'avais des effets spéciaux, ce serait le moment idéal, là, tout d'un coup, ça tombe. La voir tomber, sentir les flocons, c'est autre chose, c'est juste autre chose. Et c'est le réel. Le réel dépasse ce que je peux en dire. Et de même, tant que je n'aurai pas posé les doigts sur les touches des pianos pour essayer d'en jouer, mais le piano restera une idée, une abstraction, un peu. Vous pouvez tout savoir dans votre tête à propos de la paroi rocheuse, de l'escalade, mais vous ne savez pas ce que c'est que la paroi rocheuse, l'escalade, je regrette. Vous n'avez pas mis les mains dessus. Il y a quelque chose qui se passera là que les mots ne pourront pas vous dire. Vous pouvez tout savoir à propos de l'outil, la bêche, n'importe quoi, la hache, la scie. Tant que vous ne l'aurez pas manié, tant que vous n'aurez pas eu des ampoules, le réel dépasse toujours le discours qu'on a à son propos. Les mots ne sont pas le réel, ils ne font pas le réel, ils ne font pas tout le réel, même lorsqu'ils sont vrais. Alors, beaucoup d'illustrations, mais Je voulais simplement dire qu'il en va de même pour la foi chrétienne. Parler d'amour, parler de sainteté, parler d'obéissance à Dieu, parler de la souffrance, donner des leçons aux autres, exhorter, prêcher, exposer, conseiller. Très bien, peut-être, mais ça ne sera jamais l'amour ou le tout de l'amour. Ça ne sera jamais le tout de la sainteté. Ça ne sera jamais la souffrance ou ça ne sera jamais le tout de la souffrance. C'est lorsque j'y serai en partie, parce que même en y étant, je ne sais pas tout, que je saurai de l'intérieur, si je puis dire, ce que c'est, ce que ça coûte, ce que ça a de facile, de difficile, la sainteté, la sanctification, de plaisant, de déplaisant. Ce n'est que quand je l'aurai mis en pratique, au moins un peu. L'expérience est infiniment plus que les mots pour en parler. Bon, c'est une blague, mais enfin, bon, voilà, jolie illustration. C'est quelqu'un qui disait, avant d'avoir des enfants, bien, j'avais 5 théories sur l'éducation des enfants. Maintenant, j'ai 5 enfants. Zéro théorie. Vous pouvez avoir préparé la discussion, vous savez des arguments, et puis vous voyez comment l'autre va réagir. Et à ce moment-là, vous placerez ça, et puis là, il ne pourra plus rien dire, ça sera bloqué. Sauf que quand vous êtes dans la discussion pour de vrai, ben ça se passe pas du tout comme ça. Vous ne connaîtrez que quand vous y serez engagé. Et il en va de même pour la foi chrétienne, il y a des choses qui se comprennent. Et quand je dis comprendre, ne pensez pas intellect, je pense à plus que ça, que quand on les met en pratique. Et je dirais même pour des personnes extérieures à la foi chrétienne, il y a peut-être des choses qui vous paraîtront ridicules à propos de la foi chrétienne. Ridicule d'avoir tel comportement, de se garder de telle ou telle chose. Je trouve ça ridicule. Oui, elles vous paraîtront peut-être ridicules jusqu'à ce que vous les viviez de l'intérieur. Parce que là, peut-être, il y a autre chose qui se fera comprendre, qui se mettra en place. Et c'est pas propre à la foi chrétienne. Sixième remarque, hein, le faire me semble d'autant plus irremplaçable que le faire nous fait. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et que personne ne rajoute, je me tourne vers Luc qui pourrait être tout à fait susceptible de ça, c'est en sciant que Léonard de Vinci. Voilà, bon. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en ne forgeant pas qu'on ne devient pas forgeron. Jacques nous dit, l'épreuve de votre foi produit l'endurance. C'est en tentant de jouer d'un instrument qu'on apprend à en jouer. C'est en côtoyant une personne qu'on apprend à la connaître. Je sais, avec une marge d'erreur quand même, dans telle situation, comment ma femme réagit. Ou qu'elle a de bonnes chances de réagir. Elle sait, elle sent juste à une différence d'intonation ou de quelque chose qui passera complètement inaperçu peut-être pour la plupart des personnes qui me fréquentent moins qu'elle, c'est-à-dire tous les autres, par la force des choses. Elle sait, elle sent quand je sens irrité, décalé. C'est en utilisant un téléphone portable, un appareil photo, un outil que vous apprenez à vous en servir. Et que cet outil devient comme le prolongement de vous-même, qu'il s'inscrit en vous-même, et qu'il vous fait, que vous êtes accro. Alors, je ne sais plus trop où j'en suis dans mon affaire, dans ma projection, oui, c'est ça, voilà. Au point, par exemple, que quand vous êtes à table, pour un certain nombre de personnes, elles sont d'abord en relation avec le téléphone portable. Dès qu'il y a un truc, il faut regarder. Donc, voilà, ça passe là. Je ne dis pas que c'est mal, hein, pas si, j'observe. De toute façon, les autres personnes, me direz-vous, sont très occupées elles-mêmes avec leur téléphone portable, donc bon, après tout, c'est pas si grave, d'accord. Mais ce que je dis, c'est que ça nous fait. Ça nous fait tant et si bien que nous ne savons plus nous en défaire. Et c'est pour le bon et pour le meilleur et pour le pire, je dis pas que c'est... C'est vrai du téléphone portable, c'est vrai du petit verre pour la route, c'est vrai de la tasse de café qu'on prend le matin, c'est vrai de la cigarette pour ceux qui fument, qu'on fumera. C'est vrai pour... Cela me fait au point que je ne sais plus m'en défaire. Autant les bonnes que les mauvaises choses. Jour après jour, nous avons pris le pli. Et nous savons qu'on a pris le pli, et puis nous disons que, bon, on peut s'en défaire. Ok, essayons. Montez sur la balance. Bon. Et c'est tout notre être qui se trouve plié, pour le meilleur et pour le pire. C'est en surfant sur Internet que petit à petit nous apprenons à bien surfer sur Internet et que nous passons de plus en plus de temps sur Internet. Regardez-vous, il y a 15 ans, je ne sais pas s'il y avait Internet à l'époque, sans doute que oui, mais bon bref, et regardez la place que ça prend dans votre vie aujourd'hui. C'est en jouant à des jeux vidéo que vous devenez excellent en jeux vidéo. Vous êtes capable, le jeu l'atteste, de créer une civilisation. C'est-il pas génial, ça? Formidable! 50 000 heures de jeux vidéo, vous êtes capable de créer une civilisation. Dommage que ça ne vous aidera pas beaucoup à trouver du travail. Pourtant, vous pouvez créer une civilisation, quand même, quoi. Mais dans le CV, ça le fait pas. Bon, désolé si la diapo n'est pas à jour, il se trouve que j'ai 0 heure de jeu en ligne au compteur, et du coup, c'était tout à fait daté. C'est en apprenant à faire le bien, c'est en faisant le bien que j'apprends à faire le bien. Et que le bien diffuse ses racines en moi. C'est le cercle vertueux. Et c'est en faisant le mal que j'apprends le mal, que je deviens habile à faire le mal. Et que le mal s'enracine en moi, et que je m'enfonce dans le mal. Pas toujours, parce que c'est parfois en faisant le mal qu'on apprend de l'intérieur la malignité du mal, parce qu'on voit les conséquences qu'on a laissées chez les autres, la conséquence qu'on a quand on a honte de ses actes. Et c'est parfois là, en étant arrivé là, qu'on se dit non, plus jamais ça, plus jamais ça. Mais il y a des cercles vertueux et des cercles vicieux, et c'est peut-être aussi ce qu'on a dans la lettre de Jacques. Lorsqu'on lit, c'est cette idée de ceux qui travaillent à la paix, j'ai l'impression d'un maintenant. Enfin non. Ceux qui travaillent à la paix, j'ai l'impression qu'ils visent un avenir. Je vais là-bas, c'est là que je vise. Sème maintenant dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. La Nouvelle Bible Second traduit, est-ce que je l'ai mis là ? Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Et peut-être, et je conclue, peut-être est-on ramené ici à cette question du bonheur dont je parlais au départ. Ce bonheur qui est associé à la correspondance entre le dire et le faire. Ce bonheur dont parle Jacques, qui concerne surtout l'au-delà, je crois, mais pas que. Parce que les dissonances, comme les consonances, elles affectent, elles construisent ou elles détruisent la relation aux autres. Maintenant, les dissonances et les consonances, elles affectent aussi la relation que nous avons avec nous-mêmes. J'ai honte de moi. La consonance, elle ouvre à un bonheur. Quand le faire va avec le dire, alors il y a un bonheur dans la relation aux autres. Ce bonheur de sentir la confiance de l'autre. Et on se dit, mais parfois on ne comprend pas pourquoi. Ce bonheur qu'on trouve à voir le sourire de l'autre. Un sourire qui nous fait sourire, qui nous vivifie. Je sais l'autre heureux. Et ça me rend heureux. Ce bonheur de sentir ce que l'amour apporte à la vie, il n'y a pas besoin de discours pour ça. Il était tentant peut-être de faire autrement, mais quel bonheur d'avoir finalement dit « Non, j'obéis au Seigneur, je ne fais pas ça, je m'écarte pas. » Le bonheur d'avoir dit la vérité, de l'avoir dit avec affection, le bonheur d'avoir été doux, le bonheur d'avoir su patienter, le bonheur de pouvoir se regarder dans le miroir. Non pas pour être fier, qu'est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis génial, mais juste reconnaissant. Ce bonheur que donne une bonne conscience. Même si la conscience n'est pas forcément un indicateur de vérité, ce bonheur de se regarder dans le miroir qui est la parole de Dieu et de pouvoir s'attendre à une parole prononcée un jour, malgré nos faiblesses, qui pourrait être « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle sur une petite chose. Donc je vais te confier beaucoup de choses. Viens, viens et réjouis-toi avec moi. » Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là, celle-là, sera heureux, heureuse, dans sa pratique même.